Europe Midi, Sébastien Krebs.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Europe Midi, il est midi et demi. Et d'abord dans Europe Midi à la une, cet appel à la prudence lors de vos baignades, le nombre de noyades toujours très élevé. Nous serons en Haute-Garonne où un adolescent de 15 ans qui participait à une colonie de vacances est mort noyé alors qu'il se baignait dans un lac. À suivre aussi cette fraude géante au pass sanitaire dans les Yvelines, de vrais faux certificats de vaccination. Les fraudeurs ont usurpé l'identité d'un médecin qui était en vacances. On vous racontera et on évoquera la rentrée scolaire. Toujours le flou sur le protocole sanitaire dans les établissements. Un collectif de médecins et d'enseignants appelle à une action ferme pour protéger les enfants du variant Delta. Le professeur Gilles Pialoux sera l'invité d'Europe Midi. Ces dernières informations communiquées par les pompiers du Var, l'incendie est fixé, mais pas encore éteint. On fera le point et nous serons aux côtés des sinistrés qui découvrent les dégâts dans leur maison. Dans l'actualité aussi, Toyota contraint de baisser sa production de 40% à cause d'une pénurie de semi-conducteurs. Et Didier Deschamps qui donne sa première interview depuis la déroute des Bleus à l'Euro. Je sais que je suis le seul responsable, dit le sélectionneur au journal L'Équipe. Le temps, une belle amélioration aujourd'hui. Le ciel est très calme, nous dira Marlène Duré dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce sont des drames qui sont toujours trop nombreux, été après été. Le nombre de noyades accidentelles atteint 700 depuis le mois de juin. Plus de 160 ont été mortelles. Et le cas d'un enfant vient aujourd'hui s'ajouter à la liste et inciter encore plus à la prudence. Un adolescent de 15 ans qui participait à une colonie de vacances est mort noyé en Haute-Garonne. Benjamin Peter, vous êtes notre envoyé, notre correspondant en Occitanie. Il se baignait dans un lac.
Oui, un lac situé en plein cœur de la commune de Barbazan, accueillant avec des petites tables pour pique-niquer. C'est là que cette colonie d'une quinzaine de jeunes encadrés avait décidé de se baigner et de passer la nuit. Mais hier, en fin d'après-midi, l'adolescent est pris d'un malaise dans l'eau. Malgré l'intervention des secours pendant plus d'une heure, il n'a pu être réanimé. Pourtant, un peu partout autour du lac, il est marqué que la baignade est interdite. Pour la maire de Barbazan, Michel Strader, ce drame aurait pu être évité.
On n'a pas eu de demande particulière de cette colonie pour nous demander si on pouvait se baigner, si on pouvait camper. Aucune autorisation n'a été donnée par la commune. En sachant que le lac, la mairie a pris un arrêté pour interdire la baignade. Il date de 1961 et le second de 1976. Donc les panneaux sont affichés. Il n'y a pas de surveillance, pas de maître nageur. Donc la baignade est interdite pour faute de surveillance. Hein. Je comprends aussi des enfants de 15 ans. Il fait beau, on arrive, on voit un lac, il y a de l'eau, on a envie d'y aller. Mais effectivement, il y avait des encadrants qui auraient dû peut-être se rapprocher au moins de la mairie.
La mairie de Toulouse qui organisait cette colonie a fait part de son émotion. Une cellule psychologique a été mise en place. La gendarmerie de Saint-Gaudens a été saisie et une autopsie sera pratiquée dans les prochaines heures pour comprendre les circonstances exactes de ce décès.
Benjamin Peter depuis Toulouse pour Europe 1. Un peu plus de 2000 malades du Covid sont toujours en soins critiques. Le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter, situation qui préoccupe les médecins. On en parlera avec le professeur Gilles Pialoux qui est donc l'invité d'Europe Midi juste après le journal. Dans la rue, les manifestations contre le pass sanitaire continuent. De nouveaux rassemblements sont prévus demain dans plusieurs villes de France. Ce sera le sixième samedi consécutif. Ce pass sanitaire qui entraîne une affluence record sous les tentes des pharmacies pour se faire tester, notamment juste avant le week-end, pour pouvoir sortir au restaurant, au cinéma. Près de 6 millions de tests la semaine dernière. C'est du jamais vu. Diane Berger.
Une petite tente blanche et une longue file d'attente. Ce barnum de tests antigéniques fait le plein. À l'extérieur, Christelle attend ses résultats, un sésame précieux à l'approche de son week-end.
C'est avoir 3 jours devant nous sans se poser la question si on veut s'asseoir à une terrasse de café. On peut pas. Histoire d'être tranquille. Pour l'instant, c'est la première fois. Mais j'ai un rendez-vous à l'hôpital le mercredi, donc retest.
Malgré l'habitude, les narines de Virginie restent un peu douloureuses quelques minutes après son test antigénique. La jeune femme n'a pas encore de certificat complet de vaccination.
Là, j'ai eu ma première dose au début du mois. J'ai la deuxième à la fin du mois. Donc en attendant, je dois faire les tests.
Vous en faites à quelle fréquence ?
Tous les 3-4 jours.
À quelques mètres de là, Selma se réjouit devant son test revenu négatif. Elle s'est résignée à le faire pour entrer au centre commercial avec une amie.
De base, je voulais pas le faire. On s'est dit peut-être qu'ils contrôlent pas, mais si, ils contrôlent. Donc voilà, tant pis. Hein. Non, j'aime pas ça. Je déteste, mais bon, obligé hein, maintenant, puisque je veux pas me faire vacciner. Bah, c'est mort.
Et cette serveuse s'inquiète pour la suite. À partir du 30 août, elle aura besoin du pass sanitaire pour travailler et elle ne sait pas encore comment elle fera quand les dépistages ne seront plus remboursés.
Un reportage à Paris de Diane Berger. Et cette obligation de passe sanitaire engendre aussi des tentatives de fraude. Dernier exemple en date dans les Yvelines. Plus d'une centaine de personnes ont pu bénéficier de faux certificats de vaccination. Justin Morin, ce qu'on sait, c'est que les fraudeurs ont usurpé l'identité d'un médecin.
Oui, en fait, au départ, c'est une secrétaire d'un centre de vaccination de Saint-Quentin-en-Yvelines qui donne l'alerte. Selon le journal Le Parisien, elle constate que 111 personnes ont réussi à se procurer une attestation de vaccination et donc d'un QR code valide alors qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Elle en informe sa hiérarchie. Les faits sont rapportés aux policiers de Versailles qui ouvrent une enquête dans la foulée. À partir de ces fausses attestations, ils découvrent alors que ces 111 personnes auraient été vaccinées par une médecin versaillaise. Sauf que, en la questionnant, les policiers apprennent qu'elle était en vacances. Il y a aussi un problème avec le lieu où les fraudeurs auraient été piqués. Les attestations indiquent qu'ils ont reçu leurs injections dans des centres du Chesnay et de Versailles. Or, la médecin en question n'y a jamais mis les pieds. La sécurité sociale alerte depuis le mois d'août. Les usurpations d'identité de professionnels de santé sont en hausse. Certains pirates réussissent à se procurer leur code d'accès afin d'utiliser le logiciel qui émet les passes sanitaires. C'est ce qui est arrivé à cette médecin versaillaise. L'agence régionale de santé a aussi ouvert une enquête. La piste d'une complicité en interne est privilégiée.
Les précisions de Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. La permanence du député Sacha Houlier a été incendiée volontairement la nuit dernière à Poitiers. L'élu de La République En Marche dénonce un acte inadmissible. Une enquête a été ouverte. Et puis en Nouvelle-Calédonie, le nouveau commandant de la gendarmerie, dont des élus demandaient le départ à cause d'une condamnation pour violence conjugale, mais il va finalement être relevé de ses fonctions à sa demande, indique le ministère de l'Intérieur. L'actualité économique marquée par cette annonce du groupe Toyota, le constructeur japonais est contraint de baisser sa production mondiale de 40% à cause de la pénurie de certains composants, les semi-conducteurs. Et cela a un impact direct sur son usine en France, située à Onin, près de Valenciennes. Aurélien Fleurot.
Oui, cela fait 48 heures que les 5000 salariés sont au courant que la reprise ne se fera pas avant le 6 septembre prochain. Et s'ils ne découvrent évidemment pas les raisons de cet arrêt prolongé, cela reste une mauvaise surprise juste avant la rentrée. D'autant plus que Toyota avait réussi à plutôt mieux s'en sortir que les autres constructeurs grâce à des stocks de semi-conducteurs plus conséquents et à un bon approvisionnement. Une déception pour Eric Pecker, responsable CGT à l'usine d'Onin.
On a été prévenu mardi soir de cet arrêt de production. Ce qu'on dénonce, nous, c'est les pertes de salaire qui seront la conséquence de ces deux semaines minimum de chômage partiel. Déjà, les salaires sont pas élevés. Alors, si en plus on gagne moins au chômage partiel, ça, c'est pas acceptable.
En cause, un fournisseur malaisien dont la production a dû être stoppée à cause du Covid-19. Des conséquences mondiales pour Toyota puisque les cadences seront ralenties au Japon, mais aussi dans des usines en Amérique du Nord, en Chine et partout en Europe.
Aurélien Fleurot du service économie d'Europe 1.
Europe Midi, Sébastien Krebs.
Midi 38 sur Europe 1. Europe Midi continue avec cette bonne nouvelle dans le Var. L'incendie est fixé, mais attention avec le vent qui revient. Les autorités restent extrêmement prudentes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Midi 39, la suite d'Europe Midi. Et c'est donc une bonne nouvelle qu'ont donné les pompiers du Var ce matin. Ils sont parvenus au cinquième jour de combat contre les flammes à fixer l'incendie qui a ravagé le massif des Morts. Cela veut dire qu'il ne progresse plus, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il est éteint. Et surtout, il s'agit de rester extrêmement prudent parce que les températures vont repartir à la hausse et le vent va se renforcer dans les heures qui viennent. 7000 hectares de forêt ont brûlé et plusieurs habitations. Ces dernières heures, les sinistrés ont pu aller constater les dégâts. Témoignage recueilli sur place par notre envoyée spéciale Caroline Baudry.
Ça, c'est ma cuisine, il ne reste plus rien. Les murs se cassent, tombent, la toiture elle s'est écroulée. Regardez, il y a des morceaux d'agglos qui sont tombés.
Les photos défilent sur le téléphone d'Arlette, 66 ans. Sur les images des décombres, des vignes calcinées, les restes de sa maison ravagés par les flammes.
Le premier jour, on a l'impression que la vie s'effondre. J'ai pris une robe, une paire de tongs, les papiers du notaire et c'est tout.
Avant de se réfugier dans cette petite maison vétuste avec son fils et ses 6 caniches, elle y dort depuis mardi sur un matelas gonflable.
C'est la maison où vivait, je crois, le directeur de l'école Chabot. Et franchement, les Cogolinois, ils sont formidables. C'est la solidarité du village qui nous a prêté une table, des casseroles, des vêtements parce qu'on n'avait plus rien pour s'habiller, tout a brûlé.
Aujourd'hui, Arlette n'a qu'une idée en tête.
Reconstruire la maison. Je ne sais pas si on aura la possibilité peut-être de mettre un mobil-home pendant quelques mois, le temps que ça se construise. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on fera une grande réserve d'eau.
Pour protéger des flammes, les terres de ses aïeux sur lesquelles elle s'est installée il y a plus de 20 ans. Cogolin, Caroline Baudry, Europe 1.
Emmanuel Macron s'est entretenu hier soir avec le président américain Joe Biden sur la situation en Afghanistan. Selon l'Élysée, il a insisté sur la nécessité de coordonner l'évacuation des ressortissants étrangers et des Afghans qui ont travaillé pour les alliés. Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN est aussi prévue aujourd'hui. Et sur place en Afghanistan, le nouveau pouvoir taliban commence à être contesté dans la rue. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes, Marion Gauthier. Et on dénombre déjà plusieurs morts parmi les manifestants.
Oui, dès mercredi, l'agence Reuters fait état de 3 morts après un rassemblement à Jalalabad, à l'est de l'Afghanistan. Les coups de feu tirés par les talibans pour disperser la foule résonnent encore sur les réseaux sociaux. Même scénario hier à Assadabad, à la frontière avec le Pakistan. Un mouvement de panique suit les tirs des fondamentalistes. D'autres victimes sont à déplorer. À Kaboul, en revanche, des centaines de manifestants ont marché sans heurts. De nombreuses femmes parmi eux. L'image du poing levé de l'une d'elles est particulièrement relayée comme le symbole d'une mobilisation courageuse cernée de talibans armés. Le drapeau afghan sur les épaules, elle agite le bras, encourage et mène le défilé dans la capitale. Et une autre femme s'est aussi illustrée en tête d'un cortège noir, rouge et vert, les couleurs du pays qui fêtait hier le 102e anniversaire de son indépendance. Les talibans célébraient la victoire sur l'occupant américain. La rue, elle, réclamait le départ du mouvement islamiste. Notre drapeau, notre identité, scandent ces protestataires, une bataille de symboles. Certains ont même décroché l'étendard blanc des talibans pour le remplacer par celui de la République d'Afghanistan.
Un récit signé Marion Gauthier. L'actualité du football et les Brestois vont être déçus ce soir. Le prix des billets avait flambé au marché noir pour assister au match de Ligue 1 ce soir contre le PSG. Finalement, Lionel Messi ne fera pas encore son entrée sous le maillot parisien et Neymar ne sera pas là non plus. Il sera absent. Pour la première fois depuis l'Euro et l'élimination de l'équipe de France en huitième de finale, les mots aujourd'hui de Didier Deschamps. Il brise le silence, le sélectionneur des Bleus accorde un long entretien au journal L'Équipe. Et Cédric Chasseur, il assume l'échec des Bleus, il estime même être le seul responsable.
Oui, Didier Deschamps ne cherche pas de bouc émissaire. Vous l'avez dit, je suis le seul responsable, c'est ma fonction qui veut ça, dit Didier Deschamps. Il loue le travail de certains comme Karim Benzema. Tout ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait et relativise les performances d'autres, tels Kylian Mbappé. Il avait la détermination et les très bonnes intentions, mais pas l'efficacité souhaitée et qu'il souhaitait lui-même. Au sujet de l'élimination au tir au but face à la Suisse le 28 juin, alors que les Bleus menaient 3-1 à 10 minutes de la fin, cela ne devait pas nous arriver, dit le sélectionneur, pour qui le plus dur à digérer était de savoir ce que l'équipe de France était capable de faire et de constater ce qu'elle a fait. Ce n'est pas le meilleur été que j'ai passé, concède-t-il. Les yeux rivés désormais sur la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps réaffirme ses ambitions. Je veux continuer parce que mon envie et ma détermination sont intactes. Jusqu'à quand ? Seul le sélectionneur sous contrat jusqu'à la fin 2022 le sait. Je ne veux pas continuer pour continuer, glisse tout de même celui qui avait décidé, souvenez-vous, de quitter les Bleus de son propre chef le soir même du succès tricolore face à l'Italie en finale de l'Euro 2000.
Ça dépendra peut-être de la Coupe du Monde l'année prochaine au Qatar. Merci Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. En tennis, Raphaël Nadal annonce qu'il met fin à sa saison en raison d'un pied douloureux. Il l'annonce sur les réseaux sociaux. Du côté du Masters 1000 de Cincinnati, sachez que le français Benoît Paire va jouer les quarts de finale. En revanche, c'est fini pour Gaël Monfils. Et puis on a appris ce matin le décès du scénariste belge de bande dessinée Raoul Covin. Il était le père de la célèbre série des Tuniques Bleues. Il a succombé à un cancer. Son éditeur Dupuis salue l'un des plus grands hommes du monde de la BD. Il avait 82 ans. Le temps à 12h45, Marlène Duré, c'est calme aujourd'hui dans le ciel.
Oui, bonjour Sébastien.
Bonjour.
Alors aujourd'hui on profite de conditions anticycloniques, mais la dépression qui se rapproche de l'Irlande est clairement le signe d'une dégradation qui va nous concerner ce week-end. Alors en attendant cet après-midi, on croise les doigts pour que les grisailles matinales disparaissent complètement dans le nord. L'humidité de ces derniers jours a donné beaucoup de nuages ce matin et les éclaircies vont quand même finir par s'imposer. Où ça ? Dans les Pays de la Loire, le centre, en Auvergne, en Ile-de-France et dans les régions du Grand Est. Amélie améliorations prévues également près de la Manche, mais les nuages vont quand même rester nombreux. Il y a quand même une petite zone privilégiée de la baie de Seine en remontant vers le Nord-Pas-de-Calais, autrement dit entre Étretat et Dunkerque. Là, le soleil devrait être un petit peu plus généreux cet après-midi. Et puis en allant vers le sud, et là on en est sûr, c'est du grand soleil, de la Vendée à la Nouvelle-Aquitaine, à l'Occitanie, Sud-Massif Central, région Rhône-Alpes, Franche-Comté, Est-Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pas de problème, petites averses possibles quand même dans les Alpes du Sud, quelques coups de tonnerre aussi probablement dans les Pyrénées et la montagne Corse. Les températures remontent, elles sont de saison, 21 à 24 degrés le long de la Manche, avec 22 à Saint-Brieuc par exemple dans les Côtes d'Armor, 25 à La Rochelle, 26 à Paris et Strasbourg, 27 à l'île Rousse en Corse, autour de 30 degrés dans le midi toulousain et jusqu'à 33 à Carpentras et Cavaillon.
Et ben voilà, c'est estival, merci Marlène Duret.
Europe Midi, Sébastien Krebs.
Midi 47, dans quelques secondes, l'invité d'Europe Midi, le professeur Gilles Pialoux, infectiologue. On parle de la rentrée scolaire et du futur protocole sanitaire. A tout de suite.
Europe Midi, Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Midi 49, j'accueille l'invité d'Europe Midi en direct. Bonjour Gilles Pialoux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris. Nous allons parler de la rentrée scolaire avec vous parce qu'on ne connaît toujours pas le protocole sanitaire qui sera appliqué dans les établissements scolaires. Avec une trentaine de médecins et d'enseignants, vous publiez une tribune dans Le Monde pour demander une action ferme pour protéger la santé des enfants face au variant Delta. Une action ferme, ça veut dire quoi ?
Une action ferme, en fait, ce qu'on a un petit peu détaillé dans la tribune, c'est-à-dire que déjà, bon, le protocole, pour l'instant, il n'est pas écrit totalement. Par exemple, comme vous le savez, il y a 4 niveaux de couleurs. On demande, par exemple, que très rapidement soient fixés les indicateurs épidémiologiques, les seuils qui font passer d'un niveau à l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je pense que ce protocole ne tient pas assez compte, et c'est une position de soignant, hein, c'est pas une position, moi je ne suis pas décideur, mais ne tient pas assez compte de la transmissibilité du Delta. Je prends un exemple, par exemple, on a un premier niveau où on ne met pas de masque à l'école. Je ne sais pas sur quelles données on peut imaginer, avec toutes les alertes qu'il y a eu aux États-Unis, en Israël, sur l'hypercontagiosité de ce Delta, et surtout le fait qu'il se déplace chez l'enfant à la fois par un effet numérique, c'est-à-dire que plus il y a de contamination, plus les enfants vont être touchés. Et puis, c'est une population qui est dans l'angle mort, entre guillemets, de la vaccination pour les moins de 12 ans. Donc, par définition, le virus s'y déplace.
Donc, pour vous, le masque n'est pas négociable. Il faut que tous les élèves continuent de porter le masque.
Je pense qu'en tout cas, il y a une réflexion qui doit être faite avec les représentants de parents d'élèves, les enseignants. Je rappelle quand même que le masque aux États-Unis, au Canada, c'est à partir de 2 ans. Et le pass sanitaire, qui ne sera pas évidemment en France, c'est à partir de 3 ans en Israël. Donc, il y a des pays qui... Il y a d'autres pays comme l'Autriche qui assujettit la rentrée scolaire à des autotests. Donc on est, nous, dans une dimension très très prudente.
Alors pourquoi professeur Pialoux, pourquoi cette prudence ? Que sait-on finalement du variant Delta et de son impact sur les enfants ?
Il y a des choses qu'on ne sait pas pour vous répondre. Par exemple, on ne sait pas si... on sait qu'il y a une contagiosité qui est accrue, qu'il y a probablement une phase d'incubation plus courte, qu'il y a... de plus en plus d'enfants aux États-Unis qui sont touchés, par exemple, ça représente 31% des nouvelles contaminations aux États-Unis. Ça a alerté complètement l'Académie américaine de pédiatrie. Par contre, on ne peut pas dire actuellement qu'il y ait une augmentation de la gravité de la maladie. Il faut aussi tranquilliser les familles là-dessus. Il y a sur 200 enfants qui ont la PCR Covid, c'est un seul enfant hospitalisé, mais c'est déjà un de trop. Mais c'est vrai qu'il y a eu des alertes, et notamment aux Antilles, sur par effet mécanique, des enfants qui sont hospitalisés, et ça commence effectivement en métropole aussi.
On sait à partir de quel âge un enfant peut être contagieux ?
Il n'y a pas de borne. On n'a pas établi de borne où l'enfant n'est pas du tout contagieux. Et comme vous le savez, il y a eu à Nice notamment des nourrissons qui ont été contaminés. Donc il n'y a pas de tranche d'âge qui soit exempte de la contamination.
Ça veut dire quoi ? Ce que vous redoutez, c'est que les enfants redeviennent les propagateurs d'une nouvelle phase de l'épidémie dès la rentrée scolaire ?
Ouais, alors ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est que, bon, on dit souvent que les scientifiques ont changé d'avis, mais en l'occurrence, là, on a changé d'avis parce que l'épidémie a changé. Et le variant Delta, notamment, et le poids que met la vaccination en protégeant les adultes, mais pas cette tranche d'âge, oui, on a peur que ce soit effectivement une zone de circulation virale importante, qu'il y ait une multiplicité des fermetures de classe, et un protocole qui ne soit pas tout à fait encore à la hauteur. Il aurait peut-être modifié d'ici là. qui soit à l'auteur des enjeux de ce variant. Mmh. Et puis, il faut aussi, on a beaucoup entendu la protection de l'enfance, effectivement, qu'il faut essayer de maintenir les plus souvent les enfants à l'école. Mais quand un enfant se retrouve, ce qu'on voit, nous, avec les familles de gens hospitalisés, au centre d'un cluster, c'est extrêmement pénalisant pour lui. Il faut aussi penser à cette protection-là, quoi.
Mmh. Et vous vous rendez compte que ce que vous dites là aux parents qui... terminent peut-être leurs vacances, sont en train de rentrer. Vous êtes parents vous-même. C'est extrêmement anxiogène avant la rentrée. Vous leur dites finalement, cette rentrée, elle ne sera pas normale comme on pouvait l'espérer.
Mais de toute façon, elle ne peut pas, enfin, il faut pas se leurrer, elle ne peut pas être normale puisqu'on est dans un phénomène pandémique qui n'est pas terminé. Donc, de toute façon, l'expression que je crois utilise le ministre, c'est le plus normal possible. Mais on peut pas, de toute façon, on n'aura pas une rentrée normale, quoi qu'il en soit. Parce qu'il faudra du dépistage, parce qu'il faudra du masque, parce qu'il faudra augmenter le niveau de vaccination des plus de 12 ans, mais qui est déjà bien parti, et ça, c'est une bonne nouvelle. 30% de doses et 50% à une dose, c'est une excellente nouvelle pour les plus de 12 ans et peut-être qu'ils vont faire encore mieux. Mais elle ne sera pas normale. Mais d'ailleurs, la vie entière n'est pas normale.
Mmh. Que sait-on de l'intérêt possible de vacciner les enfants encore plus jeunes, en dessous de 12 ans?
Alors là, ça a été effectivement réclamé par l'Académie américaine de pédiatrie et par les Italiens aussi, la Société italienne de pédiatrie. Mais il faut qu'il y ait des données. Ça, je veux dire, on est dans une situation en France assez complexe. Et c'est sûr que dans la tranche d'âge de 5-11 ans, il faut être une sécurité des données. Ces données sont en train d'arriver, elles vont être examinées. Il faut que à la fois les sociétés savantes et puis les groupes scientifiques ou la haute autorité de santé s'expriment là-dessus. Pour l'instant, c'est un peu tôt, mais en tout cas, je pense qu'on doit poser le débat. Parce que c'est un débat qui ne peut pas se faire en force, c'est un débat qui doit se faire avec de la pédagogie et d'avoir un peu, comme on dit, de démocratie sanitaire, c'est-à-dire de savoir ce que les gens en pensent de ça. Mmh. Vous savez, on va se rapprocher quand même d'une tranche d'âge qui a eu, je pense, à 11 ans, et on leur a proposé le vaccin contre le papillomavirus, et puis après, il y a les petits qui ont eu les 11 vaccins, donc... Je dis pas que c'est la solution, mais c'est bien d'en parler avant qu'effectivement on ait... une étape qui serait l'avant-dernière étape avant l'obligation vaccinale.
Pour ce qui concerne le collège et le lycée, le vaccin peut éviter des fermetures de classe. Est-ce que vous approuvez la mesure qui a déjà été donnée par le gouvernement, qui fait que en cas de cas de Covid dans une classe, les vaccinés pourront continuer d'aller en cours?
Ben moi, je franchement, c'est pas que j'approuve ou que je désapprouve. Je trouve que c'est de faire une dichotomie entre les vaccinés et les non-vaccinés sur la transmissibilité, c'est pas possible. Alors, c'est compliqué d'expliquer ça. Le vaccin, il a été développé pour protéger contre les formes graves, protéger contre le passage en réanimation, protéger contre diminuer la mortalité. On sait que les vaccinés, dans une proportion évidemment moindre, sont transmetteurs. Donc, l'un des éléments majeurs qui ne va pas sur le plan médical, c'est de dire, ah ben oui, les vaccinés en cas contact, les non-vaccinés finalement sont en éviction et les vaccinés restent au collège, au lycée. Je pense que ça...
C'est risqué pour
quelque chose. Je pense que scientifiquement, c'est pas assujetti à des données scientifiques, parce qu'on sait très bien que les gens vaccinés ont une charge virale qui peuvent être extrêmement diminués, mais peuvent aussi contaminer. Je sais que c'est compliqué à le comprendre, ce qui n'est pas un argument contre les vaccins, c'est un argument pour ne pas lâcher les autres éléments de prévention. Et c'est ce que je dis toujours, il faut de la prévention combinée. C'est-à-dire que dans les écoles, les collèges et lycées, il va falloir continuer à avoir, mais c'est dans le plan sanitaire, continuer à avoir des mesures de protection collective.
De fermeture de classe et,
entre autres, de fermeture de classe, de port du masque, de distanciation, du sport, la cantine, etc. Et aussi de faire du dépistage. Il faut un plan de dépistage. On n'est pas obligé de dépister tout le milieu scolaire. Il faut le faire par grappe, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire par échantillon représentatif du collège, de l'école et du lycée, et avoir une idée de ces circulations et de l'université, et avoir une circulation, et surtout tester les vaccinés et les non-vaccinés. Et surtout pas ne tester que les non-vaccinés. Je rappelle aussi que c'est aussi une discrimination, parce que il n'y a pas que le virus qui est discriminant socialement. On sait très bien que la vaccination est socialement différenciée et qu'il y a des populations plus vulnérables qui n'ont pas accès à la vaccination.
Merci professeur Gilles Pialoux d'avoir été l'invité d'Europe Midi. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris. Très bonne journée à vous.